Question d'islam par Al Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de féminin, de féminité, des femmes, de l'éternel féminin et de l'éternel au féminin. Et c'est avec un grand plaisir que j'accueille deux femmes d'intelligence, d'esprit, d'engagement. J'ai peur de faire du sexisme en creux si j'ajoute et de charme et de beauté. On ne le dit pas pour les hommes, donc j'aggrave mon cas d'emblée. Ce sont Florence Fossé. Bonjour Florence Fossé.
Bonjour Alain.
Vous êtes engagée dans la cité, vous avez une charge élective, vous faites de la politique, vous êtes adjointe au maire aux droits des femmes et à la solidarité dans la ville de Nogent. Vous êtes citoyenne française de confession islamique, c'est l'appellation ainsi, même si c'est long. Et votre engagement dans la cité se traduit aussi par votre implication dans le projet de la mosquée de Saint-Ouen. Merci de nous faire l'amitié de venir. Merci Florence Fossé. Et à vos côtés, Hélène Pichon. Bonjour Hélène Pichon.
Bonjour Alain.
Vous êtes écrivain, essayiste, vous êtes entre autres engagement et fonction, directrice des relations institutionnelles du Centre d'études et de prospectives stratégiques, qui est un lieu de réflexion et d'action. On dit de nos jours, si vous me pardonnez l'anglicisme, un think tank. En réalité, c'est un think et un do tank. Merci à vous, Hélène Pichon. Et vous êtes de confession chrétienne, pardon, j'ai oublié de le souligner. C'est dans cette émission, c'est pour avoir un dialogue entre vous deux par rapport aux questions religieuses, confessionnelles. Comment faire pour sortir de ce d'aucuns appellent l'antique servitude des femmes, qui de nos jours est quelque chose d'inacceptable. Vous avez composé un ouvrage, Hélène Pichon, intitulé L'éternel au féminin, et ce sont là plutôt des manifestes au pluriel, mais votre manifeste à vous pour qu'il y ait l'égale dignité des hommes et des femmes dans nos sociétés.
C'est très juste, Khaleb. Pour moi, cet ouvrage, L'éternel au féminin, manifeste pour une nouvelle théologie de la libération. C'est un ouvrage qui revendique très explicitement l'égalité entre les hommes et les femmes dans le leadership religieux. Donc, très souvent, les religions s'accordent de plus en plus pour dire qu'une place majeure est accordée à la femme. On est bien d'accord. Mais très rarement, voire jamais, on ne trouve la femme sur exactement la même marche que l'homme. Dans le leadership, j'entends bien. Et cela, pour moi, est tout à fait inacceptable, mais pas seulement pour moi. Il y a évidemment des femmes dans le monde entier, à travers les siècles, qui ont élevé leur voix, mais il y a aussi des hommes, d'ailleurs, qui ont élevé aussi leur voix en ce sens. D'ailleurs, il n'est pas anodin de remarquer que dès la fondation de l'Office des Nations Unies, d'ailleurs, les fondateurs de l'ONU appelaient déjà les leaders des grandes religions à appeler les femmes au leadership. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental et c'est vraiment l'objet sur lequel porte mon ouvrage.
Et vous, Florence Fossé, votre engagement est dans le sillage de cet imame. C'est pour ça que je prononce le E à la fin, donc une imam au féminin, une femme imam, tout particulièrement Chéline Khan, parce que vous pensez que son œuvre, son engagement, sa militance est quelque chose de primordial, et notamment en contexte islamique.
Tout à fait. Je suis comme Hélène Pichon. En fait, aujourd'hui, sur le terrain, ce que j'observe, ce sont, moi je les appelle mes petites fourmis, toutes ces femmes qui œuvrent pour l'organisation, la gestion au sein de la structure religieuse. Et Malheureusement, lorsqu'il faut prendre les places de premier plan, que ce soit lors des conférences, lors des cérémonies religieuses, elles s'effacent totalement face à l'homme. Et en fait, c'est complètement contraire, et notamment si je prends la pensée islamique, c'est totalement contraire, parce que l'homme et la femme en islam sont à égalité. Il n'y a pas de domination de l'homme sur la femme, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de péché originel en islam. Donc, on oublie trop souvent ce principe. Et en fait, les femmes se sont trouvées, ou la société s'est trouvée étouffée sous le poids des traditions, sur le poids des coutumes, sur le poids des structures patriarcales. Et il y a un manque de connaissances en islam notamment, et je pense qu'on peut parler des autres religions, que ce soit sur le plan historique ou juridique. Et donc, le travail que fait Shirin Gankan au Danemark, à Copenhague, en ouvrant une mosquée réservée aux femmes, alors les hommes n'en sont pas exclus. Les hommes peuvent venir en semaine pour discuter, pour les problèmes de couple, etc. Et l'imam est un guide, et c'est aussi un guide spirituel, puisqu'elle accompagne les hommes et les femmes dans leur quotidien, et ça donne une autre image de l'islam, quoi. C'est vraiment important.
L'imam est un guide spirituel, on dit souvent qu'il est, en l'occurrence, elle est thérapeute de l'âme. Vous avez évoqué le péché originel, et vous, Hélène Pichon, j'ai dans votre ouvrage mis en exergue cette parole de Don Bosco Mulan, un activiste défenseur des droits des femmes et des hommes. Il dit « Le péché originel commis contre toutes les femmes est le mythe du péché originel du livre de la Genèse ». Vous souscrivez à cette idée, y compris à l'appellation « mythe » ?
Je souscris entièrement. Merci beaucoup, Khaleb, d'avoir mis le doigt sur cette citation qui, effectivement, est fondatrice. J'ai bien entendu tout de suite Florence Fossé dire « on n'a pas ce mythe du péché originel en islam ». Eh bien, vraiment, bien heureux islam sur ce point également, parce que ce mythe est un mythe incapacitant. Un mythe incapacitant qui certainement frappe aussi bien la chrétienté qu'une partie du monde juif. D'ailleurs, j'ai souhaité à l'entrée de mon ouvrage à poser la préface de deux personnes, dont une femme rabbin, Delphine Horviller, qui pour moi est bien sûr une femme iconographique, on va dire. Elle est vraiment emblématique et pour moi très importante parce qu'elle incarne ce que j'appelle de tous mes voeux dans les spiritualités, ce leadership au féminin. Et Delphine Horviller de rappeler justement que ce mythe du péché originel est quelque part extrêmement ancré dans les consciences des êtres qui sont religieux, pratiquants ou non pratiquants, mais aussi les êtres qui ne le sont pas. C'est ça qui est absolument extraordinaire, parce que les mythes ont ce pouvoir, c'est qu'ils rentrent dans le conscient et l'inconscient collectif au-delà de toutes les frontières. Et c'est là où il faut justement reprendre la copie et relire nos textes éclairés de l'intelligence, de la science qui est la nôtre aujourd'hui, et bien voir qu'effectivement, on ne peut pas vivre éternellement en faisant porter à la femme une sorte de péché initial qui aurait plongé l'humanité dans une sorte de désamour avec Dieu. Et l'humanité serait constamment dans un processus de rachat et d'amendement vis-à-vis du Créateur. Et la femme serait la cause initiale de la chute. Là, il faut vraiment bien comprendre qu'il s'agit effectivement probablement d'une métaphore spirituelle qui a sans doute beaucoup de messages à nous livrer, qui sont certes très intelligents, mais en aucun cas, il ne s'agit de faire porter à la femme éternellement le poids d'une faute ontologique qui nous condamnerait à tout jamais à ne pas être les guides, justement, et les leaders de nos familles, de nos communautés, de nos pays, de nos entreprises, etc. etc.
Florence Fossé, à l'instant, là, Hélène Pichon dit « Bienheureux cet islam qui ne reconnaît pas le mythe ou l'idée, ou en tout cas le récit du péché originel ». Et ça devient même un cas aggravant, c'est-à-dire qu'en l'absence de ce mythe-là, la situation des femmes dans de nombreuses contrées islamiques est une situation infrahumaine. Vous ne pensez pas que en dépit de cette absence, qui rend d'ailleurs le récit coranique, ce sont des choses que vous savez mieux que moi aussi, Florence Fossé, seul Adam désobéit, il n'y a pas la femme tentée, tentatrice à son tour. Et donc, il y a une égalité ontologique entre les êtres, mais elle ne se traduit pas dans les faits et dans l'égalité juridique.
Non, tout à fait. Et aujourd'hui, ce que l'on observe dans des pays qui se disent musulmans et qui, à mes yeux, ne sont pas musulmans, à l'instar de l'Arabie saoudite, essaye de transmettre des idées qui ne sont tout à fait contraires à la pensée islamique. Et par exemple, je pense qu'il faudrait revenir encore aux fondamentaux pour prendre les premières musulmanes, celles qui ont accompagné le prophète Mohammed, à l'instar de, par exemple, sa première épouse, Khadija. Khadija était une femme engagée, c'était une femme qui faisait du commerce, c'était une femme qui a été aux côtés du prophète tout au long de la révélation jusqu'à sa mort, et à aucun moment, elle va être son soutien. Et d'autres femmes, comme Aïcha ou Hafsa, sont des femmes de savoir. Elles vont transmettre la religion. Elles ne vont jamais s'effacer. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui, c'est que ce que dit Chérine Kankan, c'est que...
Chérine Kankan étant l'imam femme,
c'est pourquoi une femme ne pourrait pas guider la prière au sein d'une mosquée, pourquoi elle ne pourrait pas réciter le Coran, enseigner, etc. Alors bien sûr, ça existe aujourd'hui, ça commence à avancer, il y a un changement des mentalités. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes musulmans, que ce soit hommes ou femmes, qui ont une soif de savoir, de comprendre leur religion, de donner un sens à leur religion et donc de s'investir pour donner justement cet autre visage de l'islam qu'appelait une femme que j'aimais beaucoup, Eva de Vitré-Meyerowitz, et qui vraiment donne elle avait écrit un livre sur ça et elle donnait vraiment un visage de l'islam qui était tout autre que celui qu'on connaît aujourd'hui.
Et Eva de Vitré-Meyerowitz est une femme musulmane parce qu'elle n'est plus de ce monde, d'une grande culture et d'un grand savoir. Et en plus, elle était spécialiste de Rumi, ce grand mystique du XIIIe siècle. Hélène Pichon, pour rester dans la contribution du rabbin femme, Delphine Horviller, qui, empruntant un passage ou une expression d'un rabbin américain, cette fois-ci un rabbin homme, quand il dit que la liturgie, les textes, les lectures dans les offices souffrent d'un excès de testostérone. Cette appellation-là, elle seule résume cette hégémonie ou le prétendu primat des hommes sur les femmes dans les offices liturgiques.
Oui, je crois qu'on voit exactement la même chose. En tout cas, Delphine Horviller l'observe dans le monde juif. Moi, je l'observe dans le monde chrétien. De mon positionnement de catholique, j'ai pu observer cette volonté de chasser, entre guillemets, le féminin de ce que j'appelle, moi, l'autel de Dieu. Et ça, c'est vraiment une souffrance pour l'humanité. C'est une souffrance pour l'humanité qui n'est pas justifiée. Si je pars de mon point de vue totalement chrétien, Jésus était loin, lui, de cet excès de testostérone. Jésus était un homme qui était accompagné des femmes, qui a lié, j'allais dire, son passage sur la terre au plus intime à la notion des femmes, à l'essence des femmes. Sa mère, Marie, Élisabeth, qui va annoncer même, qui est femme prophète, elle annonce le divin Messie. Marie qui va être le premier tabernacle du Christ. Ensuite, Marie-Madeleine, l'apôtre préféré de Jésus. Marie et Marie-Madeleine qui toutes deux seront à la croix, au pied de la croix, au calvaire, c'est-à-dire c'est la première messe. C'est le moment où le Christ verse son sang symboliquement pour l'humanité. Ces deux femmes sont là avec l'apôtre Saint Jean qui lui est très jeune. Il est entre justement l'enfance et l'âge adulte. C'est pour ça qu'il est encore là, parce qu'il craint moins pour sa vie. Donc, comment est-on arrivé à ce paradoxe d'avoir des textes assez fidèles tout de même qui nous racontent et qui nous relatent la vie du Christ, un Christ aimé et accompagné par les femmes jusqu'au plus profond de lui-même, dans son message et dans son existence, pour arriver à voir aujourd'hui des panels uniquement masculins, une hiérarchie uniquement masculine, en tout cas je parle pour l'Église catholique. Ceci est absolument invraisemblable. C'est un petit peu le travail théologique auquel je me livre dans ce petit manifeste qui lui-même se veut modeste par la taille et par, j'allais dire, même la profondeur théologique. Il est quand même assez modeste parce qu'il veut rester très universel, accessible pour tous les lecteurs, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou libres penseurs, de manière à bien comprendre la portée du message. Parce que en essence, cet excès de testostérone dont vous venez de parler, Khaled...
Pardon Hélène, je ne voulais pas vous reprendre la première fois, mais Delphine, elle parle de testostérone.
Absolument, elle crée un mot entre testostérone et les textes. Et elle a tout à fait bien vu la chose. C'est bien là le problème. On se retrouve avec une virilisation même de l'image de Dieu. On en arrive à un point, si on devait faire un micro-trottoir dans la rue aujourd'hui, et on demanderait aux personnes, est-ce que Dieu est un homme ou une femme, ou ni l'un ni l'autre d'ailleurs, eh bien la majeure partie des personnes dirait Dieu est un homme. Et donc voilà.
Voit tout le moins au masculin, c'est André Comte-Sponville qui s'étonne pourquoi Dieu, pas que lui d'ailleurs, est toujours conjugué au masculin. Mais est-ce que c'est le masculin de la virilisation ou est-ce que c'est au masculin parce qu'il faut trouver une solution. Maintenant, on parle même d'écriture inclusive. Florence Fossé, d'ailleurs, c'est une question, si vous permettez, je vous la poserai toutes les deux. Mais ce n'est pas qu'une affaire de religion. L'homme que je suis s'étonne que notre civilisation, la civilisation humaine, apparaît à travers l'histoire, hormis quelques îlots de matriarcat dans le vaste océan de cette civilisation masculine, ayant fait un sort très tôt à la femme. Depuis que la femme est sortie du gynécée grec, elle fut tour à tour considérée comme une étaïre, une ménade, une bacchante au bacchanal, une odalisque, une égérie au mieux. L'histoire de Pandora, de Pandore et de la boîte. Quelle est votre analyse de cette affaire-là ?
En fait, moi je pense qu'on a un gros problème aujourd'hui dans nos sociétés, et c'est depuis très longtemps, c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'éducation, et qu'il faut faire vraiment un travail si on veut changer les mentalités. On ne peut pas changer du jour au lendemain cette domination masculine qu'on peut appeler, sans rouvrir les textes, sans s'intéresser aussi. Il faut sortir des textes aussi religieux. Et ça, j'y tiens beaucoup en islam et je pense aussi dans les autres religions. C'est s'ouvrir à la philosophie, à la littérature, à la poésie, à l'art et aux sciences. Et voir toute cette richesse que les femmes et les hommes, à travers les âges, ont pu apporter. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à se souvenir du masculin, je suis désolée, Rahlem, mais c'est souvent le cas. Et moi, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Hélène Pichon tout à l'heure sur la figure de Marie. Et en fait, on a ce point commun entre nos deux religions. Et je pense que c'est très important parce que je pense que des figures comme Marie peuvent véhiculer une autre image de la femme. Et le prophète Mohammed disait « la meilleure des femmes au monde, c'est Marie ». Et ça, c'est la Fidimram, exactement.
Oui.
Et après, il disait « la meilleure de ma communauté, Khadija ». Donc, ça donne une place à la femme. Et même dans le texte coranique, Marie, c'est la mère de Jésus, où Jésus apparaît comme le fils de Marie. Et c'est pas du tout... elle est au premier rang des femmes. Et je vais finir dans ma science. Ibn Arabi disait « l'homme parfait est une femme ». Donc, ça... laisse à méditation, à réflexion, savoir qu'est-ce que l'on entend par là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les hommes, comme les femmes, développent ce qu'on appelle cette part de féminité, cette part de masculinité entre eux ? Et ça passe, sincèrement, pour moi, ça passe par le dialogue, par le partage, par l'échange. Aujourd'hui, je vois trop de femmes, alors moi je parle dans les mosquées, mais chacun reste dans son coin. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, il y a un problème. Il n'y a pas d'échange forcément entre les hommes et les femmes. Il y a des femmes qui se sentent très mal à l'aise en présence d'hommes. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la vie, en fait. Je pense qu'il faut vraiment faire une révolution. Alors, pas la grande révolution, mais une révolution douce dans ce sens, quoi.
Florence Fossé, vous avez évoqué Ibn Arabi, ce grand métaphysicien, docteur Maximus, comme on dit, le plus grand maître, 1165 Murcie, 1240 Damas. Plus souvent, je mets mon grain de sel en donnant comme ça les dates de naissance et de décès de ce que vous évoquez ici à l'antenne pour donner une idée du personnage placé dans son contexte historique. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de féminité, de féminisme s'il le faut, avec deux femmes, l'une chrétienne, l'autre musulmane, engagées dans la cité, avec Florence Fossé, adjointe au maire à Nogent, avec une délégation aux droits des femmes et à la solidarité, citoyenne française de confession islamique. Je trouve que c'est une belle définition comme ça. Et Florence Fossé, vous vous êtes aussi engagée dans le projet de construction et de gestion de la mosquée de Saint-Ouen. Et Hélène Pichon, écrivain, essayiste, versée dans les questions théologiques de l'Église. Et vous êtes aussi directrice des relations institutionnelles du Centre d'études et de prospectives stratégiques. Il y a une question en suspens pour vous, Hélène Pichon. En dehors des religions, il y a aussi cette approche du monde qui a relégué la femme à un second plan parce qu'elle serait un beau mâle qui a fourvoyé le mâle. Le second mâle étant avec un accent circonflexe. Comment faire pour sortir de cette vision du monde ? Parce que si ce n'est pas l'Eva de, ou Ève de la Bible, c'est Pandore de Théodose.
Je serais tout à fait à l'unisson de la réponse que Florence Fossé vient d'exprimer. Je crois qu'il appartient aux femmes, effectivement, d'entrer dans un dialogue avec les hommes, mais un dialogue vraiment d'égal à égal.
Et exigeant.
Et exigeant, très exigeant. Voilà, Florence a parlé tout à l'heure d'une sorte de révolution douce, elle l'a qualifiée ainsi. Moi, j'ai baptisé en deuxième titre mon ouvrage « Manifeste pour une nouvelle théologie de la libération ». C'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de vouloir véritablement rebattre les cartes du leadership, en tout cas. C'est très, très important parce que sans cela, l'humanité se prive très certainement d'au moins 50% de son génie et ne libère pas son plein potentiel. Son plein potentiel, vous dites, en dehors des religions. Effectivement, moi, je pense en dehors des religions dans le sens où je pense dans la sphère spirituelle. Les religions sont effectivement des marchepieds, c'est comme ça que je les vois en tout cas, des marchepieds culturels qui sont là pour nous amener les uns les autres, venus de nos différents territoires, de nos différentes cultures, de nos différentes familles, pour nous élever sur un seuil, cette fois-ci supérieur et commun à tous, qui est le seuil de la spiritualité. Je crois que personne mieux que Rumi, d'ailleurs, n'évoque cette spiritualité qui transcende les cultures, les histoires, les siècles et les territoires, et qui nous amène à ce point focal où on voudrait créer cette civilisation de l'amour. Et lorsque je dis cela, je parle sans angélisme aucun. Je tiens bien à préciser que lorsqu'on est un artisan de paix, un artisan d'amour, on doit être armé d'énormément de courage et de beaucoup de force. Car on fait face à d'autres forces qui, elles, ne sont pas du tout tendres et pas du tout bienveillantes et pas du tout tolérantes, etc., etc. Donc on doit être dans ce combat pour moi, c'est un combat. Et ce manifeste est un manifeste de combat que j'ai écrit d'ailleurs quelque part animé par la flamme transmise par Stéphane Hessel, qui a écrit ce petit manifeste que presque tout le monde, en tout cas en France, s'est procuré « Indignez-vous ». Moi, j'avais beaucoup de sujets d'indignation au sein de mon Église, notamment en qualité de femme, mais aussi en qualité d'être humain. Et il n'était pas possible pour moi, en tout cas, de refermer le livre de ma vie. Je n'ai que 48 ans, mais c'est déjà un livre qui est en train de se refermer, sans laisser derrière moi ce message à l'humanité, dire que mon Église, l'Église catholique, on parle tout à l'heure de Florence qui se définit comme citoyenne française de confession musulmane. Moi, je suis effectivement franco-suissesse, j'ai d'autres racines aussi en dehors de la France. Mais effectivement, on pourrait dire de confession catholique. Mais l'Église a toujours revendiqué la France fille aînée de l'Église. Ben, en tant que fille aînée, j'ai un devoir pour mes petits frères et mes petites sœurs de dire que cette fois-ci, la coupe est pleine et qu'il y a urgence vraiment à penser en intelligence l'humanité en permettant aux hommes et aux femmes côte à côte de sculpter, de créer, de faire progresser un corpus idéologique qui est une religion, la religion catholique, en l'emmenant vers le 21e siècle et les siècles futurs avec de l'intelligence, de la clairvoyance, du progrès, de la conscience. Et non pas en marchant sur les cadavres d'hommes et de femmes et d'enfants frustrés dont on n'aurait même pas envisagé justement de façon holistique l'être profond.
Hélène Pichon, vous avez évoqué le 21e siècle et j'ai la faiblesse de croire qu'il finira par être féminin ou ne finira pas parce que nous voyons bien que cette condition féminine a assez duré et vous dites stop, trop c'est trop. J'ai entendu ce terme martial, alors que vous le dites avec beaucoup de douceur, que c'est un combat. Florence Fossé, l'ouvrage de Chérine Khankan, La femme et l'avenir de l'islam, d'accord, mais le combat aussi d'une imam. Qu'est-ce que c'est que cette idée de combat? C'est une lutte, ce sont des efforts, c'est un arrachement des droits?
En ce qui la concerne, c'est vraiment une réflexion qu'elle a eue. Ça a été très difficile pour elle de s'engager dans cette voie parce que, en fait, même au sein de sa famille, ils n'étaient pas d'accord. Son père, sa mère, pourtant elle est issue, son père est musulman, sa mère est chrétienne, elle est partagée entre l'Orient et l'Occident. Et on sent bien à travers tout son livre que toute la difficulté, tous les doutes qu'elle a pu avoir, pour même ses enfants, un jour, je ne sais plus si c'est une de ses filles ou un de ses fils qui dit « Mais maman, pourquoi tu ne prends pas un travail normal comme tout le monde ? Pourquoi tu t'engages dans ?» Mais elle sentait qu'il y avait un besoin de, pour les femmes de libérer la parole, de trouver un lieu serein où elles puissent se retrouver, puissent partager. Et c'est dans cette dynamique qu'elle est entrée. Alors aujourd'hui, oui, il y a des gens qui sont de l'extrême droite, etc., qui essayent d'empêcher ce genre d'initiative. On sent bien que c'est un combat de chaque jour. Et son objectif à elle, c'est d'ouvrir une académie où elle pourra former d'autres femmes à l'imama.
Oui. Alors, quelques tentatives se trouvent par-ci, par-là pour des prédicatrices.
Alors, il y a d'autres pays comme la Chine, les États-Unis, où des femmes conduisent la prière. Mais bien sûr, ça reste encore
marginal. Oui. Et puis des imams en Scandinavie. Et à travers l'histoire, des imams qui conduisent les prières que pour les femmes ont existé aussi. Hélène Pichon. L'enjeu est primordial, c'est une question de civilisation. Donc cette exigence, encore une fois, de l'égale dignité des êtres humains par-delà le genre. Et donc c'est pour ça que vous pensez qu'on ne peut plus, de nos jours, après avoir mangé plus qu'une deuxième décade de ce 21e siècle, à rester selon les images et les présupposés des temps anciens.
Chaque jour, on apprend que les femmes doivent, une fois de plus, revendiquer cette égalité dans la dignité, ne pas accepter d'être réifiées ou d'être réduites à des stéréotypes, à des fonctions qui seraient très marginales. Certes, la femme est le temple, j'allais dire, est le temple de la vie, c'est elle qui transmet la vie. Certes, la femme a cette dimension magnifique, elle incarne à la fois cette beauté, cette sensualité, etc., qui se trouve chez l'homme aussi, parce que il n'est pas de telle beauté qui ne se retrouve chez l'homme. C'est un dialogue, c'est un rapport qui doit s'instituer dans l'égalité. Mais il est certain, et ça, Raleb, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est un enjeu de civilisation. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, j'ai voulu dire que si le féminisme s'arrête aux portes des mosquées, des synagogues, des églises, des temples, eh bien, il n'a pas fait son travail. Parce que c'est un enjeu spirituel, l'égalité entre les hommes et les femmes, et les religions qui sont justement les premiers conduits de la spiritualité ne peuvent pas être les derniers bastions d'une forme de patriarcat ou, j'allais dire, de phallocratie. Ce n'est plus acceptable. Les femmes ne l'acceptent pas. Et les femmes sont éminemment spirituelles. Les églises, très souvent, sont pleines de femmes. J'imagine les synagogues de même et les mosquées aussi. Les femmes, en essence, sont des êtres très spirituels, très sensibles, qui fonctionnent avec le cœur, avec les émotions. Et il est absolument impensable qu'on ne leur permette pas d'avoir ce partage dans la conduite de l'humanité vers cette élévation.
Et le pronom indéfini « on » sont des hommes qui, par égoïsme, par crainte, par peur, par calcul, ou par simplement paresse intellectuelle, ou par héritage, agissent de la sorte.
Certes, on remarque qu'il y a beaucoup de réflexes acquis. Je laisserai très volontiers la parole à Florence sur le sujet, mais je crois qu'il y a aussi le fait de répéter sans trop réfléchir des modèles et reproduire des formes à l'infini sans se donner le moyen de
repartir. Ça, dire c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, donc voilà. On reste comme ça. Et pourquoi changer ? C'est très étonnant ce genre de discours. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Hélène tout à l'heure. C'est l'homme et la femme sont complémentaires dans la civilisation. Ils ne sont pas en opposition. Pas du tout. C'est une complémentarité nécessaire pour construire l'humanité de demain, pour construire la société de demain. Et c'est avec les hommes, et Sherine Kankan le dit très bien, c'est avec les hommes qu'on va construire les choses et non pas sans eux. Et j'en reviens toujours, Raleb, c'est le dialogue, c'est l'écoute, mais c'est aussi l'éducation. C'est le fil conducteur d'une société, l'éducation. C'est moi j'appelle ça la colonne vertébrale de la société. Sans éducation, comment voulez-vous construire une société sereine, apaisée, où tout le monde se respecte et s'écoute ? Mais c'est peut-être un vœu pieux, ou je ne sais pas, mais je continue d'y croire, quoi.
Alors, Florence Fossé, quand vous parlez de cette complémentarité entre l'homme et la femme, c'est une complémentarité fondée sur l'égale dignité et humaine et aussi une égalité en droit et en devoir, parce que chez certains pinailleurs ou ceux qui ratiocinent, et ils vont dire oui, mais c'est une complémentarité, mais avec une prééminence des hommes sur les femmes. L'essentiel, c'est que l'une agit là où l'autre est incompétent et inversement, mais la prééminence demeurera pour l'homme.
Raconter une anecdote.
Il
y a un élu de la République qui m'a dit une chose un jour, ça m'a fait bondir, qui m'a dit « Mais si tu voulais que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, il faut que vous vous rappeliez que vous avez les mêmes devoirs. » Et ça m'a choqué, ça m'a fait sortir hors de moi, lui disant « Mais nous connaissons nos devoirs, nous connaissons nos droits, et nous savons comment avancer et quelle est notre place au sein de la société. » Bien sûr, il y a des choses à changer, il y a des regards à changer, notamment que ça soit au niveau professionnel, au niveau politique par exemple, il a fallu quand même légiférer pour que les femmes puissent s'engager en politique aujourd'hui, faire accepter qu'il fallait un homme, une femme sur une liste, c'était quand même pas évident. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les femmes de s'engager parce que c'est elles qui portent la vie familiale, même s'il y a des changements de mentalité, même si les hommes prennent plus en plus part à la cellule familiale et à l'éducation des enfants, ils y tiennent à cette responsabilité. Encore aujourd'hui, c'est la femme qui porte. Et donc, s'engager en politique, avoir une carrière professionnelle, ce n'est pas encore, pour certaines femmes, pas pour toutes, pour certaines femmes, ce n'est pas évident. Et il faut vraiment un travail de fond de ce côté-là pour changer les mentalités, quoi.
Hélène Pichon, au début de notre entretien, vous insistiez beaucoup, et c'est aussi ce manifeste que vous écrivez pour une nouvelle théologie de la libération, vous insistez sur la participation, si ce n'est peut-être même le primat, au niveau du leadership des églises d'une manière générale, mais vous parlez de l'église catholique. En quoi, pardonnez-moi de vous poser la question, est-ce nécessaire et vital pour vous que cette participation ou la conduite même des affaires de la curie romaine soit importante pour les femmes ou que ce soit, allez, une papesse?
Absolument. C'est tout à fait important pour moi que les femmes puissent retrouver cette place que, en tout cas dans l'Église catholique, si on part de notre Église, le Christ lui-même avait donné cette place aux femmes. Vous avez évoqué Marie, bien sûr, sa mère, premier tabernacle, je l'ai cité tout à l'heure, Marie-Madeleine, l'apôtre préférée de Jésus. C'est à elle que le Christ va apparaître en premier au jour de la résurrection. C'est à elle qu'il demande d'aller annoncer sa résurrection. Il ne faut pas l'oublier, elle était donc bien là. Et c'est bien à elle qu'il a demandé ceci et non pas à d'autres. Et ensuite, bien sûr, sont venus les apôtres, etc. Mais comment en est-on arrivé là, dans cette lutte déjà absolument incroyable, dès l'origine, j'allais dire, du christianisme? C'est tout à fait étonnant de voir ce pouvoir du patriarcat sur les femmes. Alors, lorsqu'on lit avec les théologiennes, avec tous ceux qui expliquent et qui expriment les textes, on comprend à quel moment ces dérives ont eu lieu. Mais aujourd'hui, il est absolument impérieux et impératif de faire cet exercice d'exégèse et d'intelligence à partir des textes, parce que les femmes apportent, comme l'a très bien rappelé Florence Fossé tout à l'heure, ce complément d'humanité spirituelle autant que dans la vie matérielle et biologique. De croire que le masculin et le féminin ne sont requis que pour transmettre la vie biologique, c'est une cécité absolument incroyable. Ils sont requis pour transmettre la vie spirituelle aussi. Et dans mon Église catholique, on reconnaît certaines femmes docteurs de la foi. Je cite par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Or, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, décédée à 24 ans, je le rappelle aussi pour mémoire, elle souhaitait être prêtre. Elle ne souhaitait pas, au tout départ, être religieuse. Elle voulait être prêtre parce que elle avait cette capacité à vouloir transmettre le logos. Qui dit prêtre, prophète et roi dit, comme le disent les Écritures, dit ce rapport très intime avec le texte, très intime avec l'esprit. Cette capacité à transmettre dans ces grands moments de la vie que sont la naissance, l'union nuptiale si elle est, et la mort, le passage dans l'au-delà, ce sont des grands moments fondateurs et fondamentaux dans la vie des êtres humains, et la femme est présente à toutes ces étapes d'une façon totalement essentielle. Et pourquoi l'évincer? Pourquoi faire l'économie de son génie spirituel qui est là pour aussi établir l'équilibre? Et si vous voulez, Khaleb, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, lorsque moi j'évoque cette nécessité de réintégrer le féminin dans la dimension religieuse et dans la dimension spirituelle, j'entends par là redire aux leaders religieux que lorsqu'on parle à l'humanité, on parle à une humanité adulte. Et une humanité adulte, c'est une humanité qui comprend une sexualité. Une sexualité, lieu de la transcendance, lieu où justement le divin fusionne avec l'humain et la vie, y compris spirituelle, vient sur cette planète. Il faut bien se situer d'ailleurs à l'échelle du multivers, au-delà de l'univers, au-delà de notre Terre, il y a bien sûr d'autres dimensions. Et lorsque la vie jaillit sur la Terre, il y a cet éclat du divin qui vient sur terre. Et cette dimension de l'homme dans sa sexualité, en tout cas dans mon Église catholique, il y a tout à revoir et tout à repenser. Parce qu'on se trouve avec un déni de la sexualité. Il y a d'ailleurs un ouvrage remarquable qui a été écrit par deux femmes qui s'intitule « Le déni », qui a été préfacé par un père jésuite qui aujourd'hui a 101 ans, qui s'appelle le père Joseph Moins, qui lui-même appelle les femmes à devenir prêtres, à devenir évêques, à devenir cardinales et à devenir, pourquoi pas un jour, pape, papesse, parce que ces personnes veulent être honnêtes, intègres face à l'être humain. Un être humain vit avec une sexualité à partir de sa puberté et il convient de construire et d'envisager cette sexualité dans la responsabilité, l'éducation bien sûr, le sens du devoir et des droits, et ne pas être dans le déni. Car qui dit déni, qui fait l'ange, fait la bête, et on se retrouve avec des situations de personnes extrêmement frustrées, dans notre clergé en particulier, et qui vont avoir des comportements qui peuvent être déviants, voire criminels. Et aujourd'hui, c'est mon Église est actuellement confrontée à cette réalité parce que le voile se lève, la parole est libérée, pour citer l'organisation éponyme en France qui s'appelle La Parole Libérée, qui a d'ailleurs, malheureusement, à travers le monde, ses équivalents, que ce soit aux États-Unis, cette organisation qui s'appelle le SNAP, les survivants des abus commis par des religieux sur des fidèles, et la même chose en Italie et dans tous les pays. Donc, si vous voulez, la parole se libère, on constate qu'on a à la fois un clergé et un peuple de fidèles qui sont souffrants à ce niveau de leur humanité, et ce n'est plus acceptable. C'est pour ça aussi que, effectivement, mon cri théologique est un cri, effectivement, Khaleb, de civilisation. Ce n'est plus possible d'être dans le déni, et ce n'est plus possible de cautionner des agissements pareils. Il faut évoluer, et on ne peut évoluer qu'à travers ce rétablissement du yin et du yang, du masculin et du féminin.
Hélène Pichon, je vous ai laissé vous exprimer sur ces questions qui vous tiennent à cœur et qui ont des enjeux humains. Et nous avons effectivement parlé, sans grande éloquence, d'enjeux de civilisation. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam au pluriel, avec deux femmes engagées. Florence Fossé, qui est une femme politique à son niveau, adjointe au maire de la ville de Nogent, avec une délégation aux droits des femmes et à la solidarité. Elle est citoyenne française de confession islamique. Et Florence Fossé, vous êtes aussi impliquée dans la vie de la mosquée de Saint-Ouen. Et les questions d'éducation vous tiennent tout particulièrement à cœur et nous voyons combien elles sont impérieuses. Et à vos côtés, Hélène Pichon, essayiste, écrivain, auteur d'un manifeste pour une nouvelle théologie de la libération. Vous êtes très versée dans les questions théologiques, Hélène Pichon, et vous êtes aussi directrice des relations institutionnelles du Centre d'études et de prospectives stratégiques. Et pour régler ça, en tout cas donner une tentative d'esquisse, d'ébauche, de sortie de crise, c'est d'abord la participation dans la conduite des affaires, vous l'avez dit, Hélène Pichon, et en contexte islamique, il y a déjà un travail colossal, titanesque, au niveau de la pensée théologique islamique ou la pensée tout court, philosophique, où il y a lieu de découpler le juridique de l'ontologique dans l'univers islamique, Florence Fossé.
Alors, en fait, aujourd'hui, on est face à plusieurs situations en islam. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment qu'il ne faut pas toucher aux sources scripturaires et que le Coran et les hadiths du prophète, donc l'ensemble des paroles et des actes du prophète Mohammed. On ne doit pas y toucher, on ne doit pas revenir. Donc c'est une lecture littéraliste. Et ce que dit Shirin Kankan dans son livre, elle dit il faut faire, alors moi je vais dire le djihad de l'ijtihad, donc l'effort de l'interprétation des textes. C'est-à-dire que les textes sont situés dans un contexte et qu'il faut remettre les choses à leur niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses, je ne sais pas, par exemple, par rapport à l'adultère, etc. Ce sont des questions dans nos sociétés aujourd'hui qui n'ont, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'ils demandent, par exemple, dans le texte, dans le corpus coranique, qu'il faut 4 témoins pour. Mais c'est complètement aberrant. C'est des
témoins oculaires qui ont assisté à l'acte.
La question de la polygamie, par exemple, aussi. Et le Coran est très clair sur le sujet. Il dit vous pouvez avoir 3 ou 4 femmes, mais si vous n'êtes pas équitable, mais vraiment équitable avec ces femmes, n'en prenez-en qu'une seulement, parce que vous ne pourrez absolument pas remplir
Si vous permettez, Florence, Fossé, le texte est... dans le cadre de la prise en charge des veuves et des orphelines, il vous est possible d'épouser parmi celles qui vous plairont 1, 2, 3 ou 4 femmes, à condition que vous soyez équitable. Mais comme vous ne pourrez être équitable, une seule épouse vous est recommandée, c'est la conduite la plus proche de la justice, mais vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si tel était votre désir le plus ardent, car Dieu n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme. Donc l'égalité, elle est aussi affective et charnelle.
Et charnelle, oui, tout à fait. Et puis il y a d'autres problèmes aujourd'hui, quand même, il faut quand même en parler. C'est aujourd'hui, encore dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes du mariage forcé, de l'excision, de tous ces...
Même chez nous, dans notre pays, en France.
C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une jeune fille qui vit en France, etc. On va lui dire, tiens, tu vas aller dans la famille dans tel ou tel pays. Puis elle revient, elle est soit mariée, soit excisée. Donc ce sont des horreurs. Et ça n'a rien à voir avec la pensée islamique. Mais certains se permettent de prendre les textes et de trouver le mot ou la petite phrase qui va justifier leurs actes. Et là, c'est très très grave. Et dans ce sens, pour répondre un peu à votre question, Khaled, il faut vraiment faire un travail sur la pensée islamique, retravailler tous les textes, mais aussi les mettre en regard de la pensée occidentale ou de la pensée africaine, la pensée asiatique. Il n'y a pas qu'une seule pensée. Il faut ouvrir, il faut avoir cette curiosité, il faut avoir cette volonté d'aller, comme on fait aujourd'hui ce matin, de se parler en tant que chrétien, juif, parce qu'aussi les musulmans, certains musulmans, ont tendance à dire judaïsme, christianisme, c'est bon quoi. Mais non, il faut lire le judaïsme, le christianisme pour comprendre l'islam. Les 3 monothéismes sont liés les uns aux autres, puisque nous sommes basés sur le monothéisme abrahamique. Donc c'est très important.
Laurence Fossé, c'est vrai que c'est important. Hélène Pichon, ces questions de maltraitance, finalement, tombent sous le coup de la loi. Dans notre pays, les lois de la République prévalent et ont le primat sur telle ou telle conception ou telle vision. Donc on ne va pas accepter d'imposer un mariage forcé. Bon, ça peut se faire ailleurs, on ne va pas accepter telle ou telle mutilation. Donc de ce point de vue-là, il y a un engagement au service de l'homme, de l'être humain, homme et femme, de la personne humaine, pour préserver ses droits fondamentaux.
Il y a un engagement de la personne humaine pour préserver ses droits fondamentaux, que nous soyons effectivement juifs, chrétiens ou musulmans, nous avons
libre penseur ou non croyant,
athée, agnostique, tout ce que vous
voulez. Ou bahaï, ou adepte de toute autre tradition religieuse.
Donc, hindouiste ou autre. Nous sommes effectivement tous des êtres humains en marche et nous essayons d'être éveillés pour faire progresser justement nos différentes corpus idéologique, culturel, pour aller vers cette humanité qui tient debout, qui tient debout, qui porte et qui progresse, qui avance. C'est quand même assez impensable que l'on arrive à explorer l'univers. Maintenant, on arrive à aller faire des missions sur Mars et sur la Lune, et on serait encore à l'étape préhistorique dans certains comportements, dans toutes nos religions. Et une fois de plus, comme l'expliquait très bien Florence Fossé, s'appuyant sur des bribes de textes ou des visions très parcellaires, voire très limitées. Dans mon travail, dans mon texte « L'éternel au féminin », je cite, même parfois c'est assez amusant, les encycliques de pape, y compris Jean-Paul II, que j'avais eu la chance de rencontrer d'ailleurs plusieurs fois, disant « mais est-ce qu'on est vraiment bien fidèle à la pensée ou à l'action de Jésus ?» On peut s'interroger. Je cite d'ailleurs ces paroles de Jean-Paul II, parce qu'il se rendait bien compte, je pense, à quel point on était aujourd'hui très éloigné sur certains aspects du comportement du Christ même.
Hélène Pichon, et d'ailleurs Florence Fossé, puisque nous nous approchons du terme de notre émission, je le crois fondamentalement, et nous le répétons beaucoup à cette antenne, que les antidotes à tous ces dérives de radicalisation, d'extrémisme, demeurent dans les maîtres mots que sont éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance. Certes, ça reste une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quel est ce supplément d'âme? Vous pensez l'une et l'autre qu'il vient aussi de la mère, de l'épouse, de la fille, de la sœur, de tout ce que peut être une femme dans la société?
Absolument. Le féminin est cardinal. Le féminin est éminent. Il est là, il est présent, mais tout juste également en chaque homme. Je crois que chacun d'entre nous est composé de son yin et de son yang. Là, je me réfère à des civilisations et des sagesses encore bien plus lointaines et bien plus... Nous avons tous cette part de féminin et de masculin. C'est d'ailleurs très intéressant d'observer la création d'un être humain, tout petit embryon, au tout départ. Nous sommes aussi bien hommes et femmes. C'est au bout d'un certain temps que les chromosomes se divisant, on devient effectivement ou homme ou femme. Mais en essence, quelque part, nous appartenons à la même humanité. Et ce sera, je pense, le grand progrès du XXIe siècle si nous arrivons à réconcilier et à donner pleine vie à ces deux ventricules, j'allais dire, de ce cœur, c'est ce même cœur humain.
Cette injonction coranique, adorez votre Seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et instauré entre vous amour et miséricorde, vous la faites vôtre, vous l'appliquez, Florence Fossé.
Oui, moi je trouve qu'il y a un mot, et Hélène Pichon l'avait souligné tout à l'heure, c'est le mot amour. Je pense qu'on oublie un peu trop ce mot, et moi je le vois en islam. Souvent on met le mot piété à la place, c'est beaucoup plus... comme ça, on masque les choses. On dit, vous devez avoir des vies pieuses. Et tout. Non, vous devez avoir des vies remplies d'amour les uns pour les autres. Et c'est ça l'humanité de demain. C'est ça même l'humanité d'aujourd'hui. Et ça passe, on parlait de l'éducation tout à l'heure, mais ça passe aussi par l'éducation. C'est pas seulement à l'école, c'est aussi dans le cadre familial. C'est dans les relations que nous avons au quotidien, dans les rencontres que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on construit un être humain libre et engagé. C'est ma conviction. Et rempli d'amour, bien entendu.
Alors, vous avez parlé de l'amour sans naïveté obtuse. Vous l'avez souligné, Hélène Pichon. Donc, c'est d'un manque d'amour que nous suffoquons et d'un manque de tendresse que nous étouffons. Merci à vous deux. Merci Florence Fossé. Merci Hélène Pichon. C'était Question d'Islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Bredin et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
تحضدي كما بتح شعار كني ولا نفسي قمني سعر ساعة يعرض بتحضدي كما بتح شعار كني ولا نفسي قمني Gam nisharasa'ar.